Bien, alors la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment interpréter les prédictions bibliques ou les prédictions de la Bible. Donc c'est un exposé qui s'inscrit dans notre série d'exposés qu'on a intitulé Une question à la foi, qu'on a démarré en fait il y a un peu plus d'un an, et qui couvre donc des questions diverses et variées. Comment interpréter les prédictions bibliques? Quand on ouvre la Bible et qu'on la lit, et la plupart d'entre vous, je suppose, vous avez pas mal d'expérience, ou vous avez pas mal lu la Bible, vous avez déjà remarqué qu'il y a un certain nombre de passages dans la Bible qui parlent au futur, qui parlent de choses qui doivent arriver, qui vont arriver dans l'avenir par rapport à la personne qui écrit ou qui parle. D'accord? Alors bien entendu, vous savez que quand quelqu'un, il y a 2000 ans, parle au futur, il parle peut-être de quelque chose qui pour nous est dans le passé, on est d'accord? C'est assez logique ce que je dis ici. Mais en tout cas, une partie assez conséquente de la Bible concerne des prédictions. Alors j'utilise ce mot de prédiction plutôt que le mot de prophétie, bien que souvent, quand on parle de prophétie, dans l'usage courant, on parle de prédiction. Mais en fait, la prophétie au sens biblique, c'est pas juste des prédictions. La prophétie au sens biblique, c'est parler avec autorité de la part de Dieu. Ça peut concerner des choses tout à fait présentes et ça peut même concerner le passé. Lorsqu'un auteur de la Bible parle du passé de façon inspirée, en étant inspiré par le Saint-Esprit, de façon infaillible donc, on dit que c'est de la prophétie aussi. Donc quand je parle de prédiction, je parle d'un genre de prophétie qui annonce des choses à venir. D'accord? C'est pour ça que je préfère ce terme de prédiction. Alors, cette question, comment interpréter les prédictions bibliques, elle a donné lieu à pas mal de controverses. Alors, la plupart de ces controverses se cristallisent autour d'un domaine de la théologie qu'on appelle l'eschatologie, ce qui concerne donc les événements à venir, à la fin des temps, entourant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce domaine en particulier que cette question précise sur l'interprétation des prédictions bibliques a suscité le plus de controverses. Mais nous, donc vous allez voir que sans doute certaines applications vont concerner particulièrement la fin des temps, mais en fait, on peut élargir le sujet à toute prédiction biblique. À chaque fois qu'on lit la Bible et qu'on tombe sur un texte qui parle de choses qui doivent arriver au futur, eh bien, comment faire pour interpréter ces prédictions de la meilleure manière possible? Et vous allez voir, finalement, à l'issue de cet exposé, qu'il n'y a pas grand-chose de, comment dire, d'original dans ce que je vais vous dire. Pour interpréter les prédictions bibliques, finalement, il va falloir simplement appliquer les règles ordinaires, normales, de l'interprétation de la Bible en général. Vous allez voir donc que beaucoup de ces choses que je vais vous dire, vous n'allez pas les trouver très originales, je suis désolé, hein. Alors vous allez voir, ce sont des principes utiles, il faut les connaître et je vous encouragerai à les retenir pour votre lecture personnelle de la Bible. Mais vous allez voir et c'est un petit peu ma crainte, c'est qu'au lieu de nous faciliter la tâche, dans l'interprétation de la Bible, je crains que ces principes, si on les applique, vont en fait nous compliquer la tâche. Et vous allez voir que finalement, interpréter la Bible, c'est pas hyper facile, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas toujours hyper facile. Ça demande du travail. Et c'est aussi en partie pour ça que Dieu a institué des ministères dans l'Église. Et dans la grâce de Dieu, Dieu appelle des gens dans l'Église à se consacrer à l'étude de la Bible et à l'enseignement de la Bible. Donc tout le monde, bien sûr, doit étudier la Bible, tout le monde doit être capable d'en partager le message à d'autres, mais les pasteurs, les anciens, les docteurs, pour reprendre une expression du Nouveau Testament, ces gens-là ont une vocation particulière qui consiste à étudier la Bible et à pouvoir en transmettre le message. Et ces ministères existent notamment parce que ce n'est pas une tâche facile, et vous allez peut-être vous en rendre compte encore une fois aujourd'hui. Ce serait certainement plus simple de dire, comme certains le font, hein, je crois, ou en tout cas c'est une tendance qui existe, de dire que chaque passage biblique doit tout simplement être pris au pied de la lettre. Voilà. Mais comme on va le voir, ce principe en réalité est inapplicable. Et même ceux qui le disent en réalité ne peuvent pas l'appliquer ce principe jusqu'au bout. C'est juste impossible. Et vous allez le voir. Alors je vais vous proposer cinq questions à vous poser quand vous tomber sur une prédiction biblique dans votre lecture de la Bible et vous voulez l'interpréter. Alors, cinq questions à se poser. Et de préférence à se poser dans l'ordre dans lequel je vais vous les donner. D'accord? Cinq questions. Première question. Qui parle à qui et quand? Qui parle à qui et quand? Premièrement, donc, quand on lit un texte où il y a une prédiction, donc, dans la Bible, il faut identifier l'auteur, les destinataires et le contexte historique. Qui parle à qui et quand? Évidemment, le sens d'une prédiction, comme le sens de n'importe quel passage biblique en réalité, dépend en grande partie de ces éléments. Qui parle à qui et quand? Si un jour je reçois un texto sur mon téléphone qui dit « Tu me manques et j'ai hâte de te voir demain », je dois me poser ce type de questions. Le message est-il arrivé au bon moment ou avec un ou deux jours de retard, comme ça arrive avec les textos? Parce que si le message est arrivé avec un ou deux jours de retard, demain, c'est pas demain. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, c'était hier. Ça arrive surtout avec le système de messagerie d'Apple, iMessage, où des fois on envoie un message et puis il disparaît dans l'hyperespace et puis il réapparaît des fois plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard. Et gling! Tu me manques et j'ai hâte de te voir demain. Mais j'avais pas prévu de voir ma femme demain. Pourquoi je parle de... Ah, et puis des fois on peut regarder la date et l'heure à laquelle le message a en réalité été envoyé. Élément extrêmement important pour comprendre la portée du message. Le message est-il arrivé au bon moment ou avec un ou deux jours de retard? Mais le message est-il arrivé au bon destinataire? Ou est-ce qu'il y a eu une erreur sur le numéro? A-t-il vraiment été écrit par l'auteur qui s'affiche sur l'écran? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui utilisait, en l'occurrence, le portable de Suzanne? D'accord? Est-ce que c'était du style direct ou du style indirect? Est-ce qu'il manque une partie du message? Par exemple, dis à maman, tu me manques et j'ai hâte de te voir demain. Ça change tout. On est d'accord? Ça change tout à la portée du message et à cette sorte de prédiction concernant demain. Ça change tout. Qui parle à qui et quand? Alors je prends un exemple emblématique. Jérémie 29, verset 11. Alors ça, c'est un verset qu'on découvre sur toutes les cartes postales chrétiennes, sur toutes les affiches des bons chrétiens dans leur chambre, etc. Jérémie 29, verset 11. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. » Oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Oh, Seigneur, merci pour ta promesse. Mais qui parle à qui et quand? Dieu parle à son peuple en exil, d'accord? Quand? Pendant qu'il est en exil, à Babylone. C'est pas Dieu qui parle à tous les croyants ici. C'est pas Dieu qui parle à Alex, d'accord? Alors on peut pas prendre ce verset et dire « Dieu a pour moi » des desseins de paix et non de malheur pour me donner un avenir fait d'espérance. Alors on sait que de manière générale, de manière plus large, c'est vrai, Dieu destine les croyants à un avenir plein d'espérance. Il destine les croyants au paradis, n'est-ce pas? Mais ce texte n'est pas destiné aux chrétiens que nous sommes du 21e siècle à Lyon. C'est Dieu qui parle par son prophète Jérémie à son peuple en exil à Babylone. On doit faire ce genre d'effort, n'est-ce pas, pour discerner les éléments que j'ai mentionnés. Ah oui, les bruits qu'on entend dehors, vous savez ce que c'est? Oui. C'est pas une guerre civile, mais c'est juste un match de foot, d'accord? Juste pour vous rassurer. Oui, ça fait peur. Mais ça va, nous on est à l'abri. Au sous-sol d'une église catholique, c'est bon. Alors, première question à se poser, qui parle à qui et quand? Pour remettre les choses dans leur contexte. Deuxième question à se poser, sur quel mode l'auteur s'exprime-t-il? Et je parle ici de tenir compte du contexte littéraire. Alors, premier point, auteur, destinataire, contexte historique. Mais deuxième point, contexte littéraire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur quel mode l'auteur s'exprime-t-il? Alors, en fait, en fonction du style littéraire, ou du contexte littéraire, disons, on s'attend à un certain style ou à un certain autre. Un prophète dans l'histoire biblique, un prophète qui dénonce vigoureusement les péchés du peuple de Dieu et qui avertit ce peuple contre la venue imminente du jugement, ne va pas s'exprimer sur le même mode, d'accord? Qu'un historien biblique qui rapporte toujours dans la Bible le récit de ses péchés et ensuite du jugement qui est arrivé. Ça ne va pas être sur le même mode. Et ça ne va pas être sur le même mode non plus que celui d'un poète biblique qui écrit un psaume en méditant sur ces mêmes événements. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur quel mode l'auteur s'exprime-t-il donc quand on arrive à un texte qui parle, qui prédit quelque chose ? Est-ce que c'est un prophète qui, dans son rôle de prophète, annonce avec vigueur, comme dans une prédication, il annonce la venue imminente d'un jugement ? Ou bien est-ce que c'est un historien qui rapporte, comme le fait un historien dans un livre d'histoire, des événements, peut-être des événements à venir ? Ou bien est-ce que c'est un poète qui, de manière poétique donc, dans le cadre d'un psaume, dans le cadre d'une certaine littérature poétique, est en train de méditer sur ces événements ? Et on peut penser à d'autres modes d'expression encore, d'autres contextes littéraires. Vous comprenez ? Je vais prendre des exemples. D'abord des exemples qui nous concernent, qui concerne notre vie de tous les jours. Si le soir, je regarde le journal télévisé, et après, il y a la météo. Et la personne qui présente la météo va me dire, à Lyon, le brouillard épais de la matinée sera suivi de fortes précipitations dans l'après-midi. Bon, ça, c'est la météo qui me dit ça. Alors moi, je me tourne vers Suzanne, je dis, hey, Suzanne, demain, on va se réveiller dans une purée de pois coupée au couteau, et ensuite, il va tomber des cordes. Bon, on parle de la même chose, mais pas sur le même mode. D'accord ? Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, une purée de pois, à couper au couteau, si vous ne savez pas ce que ça veut dire qu'il va tomber des cordes, vous allez dire, mais de quoi il parle ? D'accord ? De quoi il parle ? Est-ce qu'il va tomber des cordes ? Je ne comprends pas. Est-ce que je dois prendre Alex au pied de la lettre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, on parle bien d'un événement réel, d'une prédiction, plus ou moins réelle, enfin c'est la météo, mais on parle d'une prédiction, on parle d'événements qui doivent venir, d'accord ? Imaginez encore, en sport, pronostic du commentateur sportif à la radio. L'équipe de Lyon devrait remporter facilement le match contre l'équipe de Saint-Étienne. Okay. C'est clair. Alors moi, je me tourne vers Suzanne. Ah Suzanne, nous les gones, on va mettre la pâtée à ces petits lapins stéphanois. Les gones, ça veut dire quoi ? Mettre la pâtée, ça veut dire quoi ? Ces petits lapins stéphanois, ça veut dire quoi ? Incompréhensible pour celui qui ne comprend pas bien sur quel mode je suis en train de m'exprimer. Vous comprenez ? Pourtant, on parle bien de la même chose. Donc, en fonction du contexte littéraire, on peut parler de choses qui sont exactement les mêmes, mais sur des modes complètement différents. Et pour interpréter ces choses, il va falloir s'y prendre de façon complètement différente. On ne peut pas appliquer les mêmes stratégies d'interprétation en fonction du mode littéraire. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, un exemple biblique. Un exemple, alors je vais prendre, dans tous les exemples que je vais prendre cet après-midi, je vais prendre des exemples, disons, évidents. Où il n'y aura pas trop de polémique, quoi. D'accord ? Ils ne vont pas trop prêter à polémique. Et pour les exemples moins évidents, on verra ça une autre fois. Alors, l'Ancien Testament prédit la naissance du Messie. N'est-ce pas ? Alors, Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Le prophète parle de la naissance de Jésus sur terre, dans notre monde, d'accord ? Alors, Luc nous parle aussi de cet événement, mais sur un autre mode, l'évangéliste Luc. Luc 2, verset 7. Marie enfanta, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On parle de la même chose, hein, mais sur un mode complètement différent. Ouais ? Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui nous parle du même événement. Philippiens 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Parle la même chose, hein, l'incarnation, n'est-ce pas ? La naissance du Messie, la naissance humble d'un Messie qui n'est pas reçu par le monde où il vient, par la, on est d'accord ? Mais trois modes d'expression différents, trois contextes littéraires différents, maintenant un quatrième, l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il s'agit de la naissance du Seigneur Jésus. Peut-être avec une petite extension sur son exaltation auprès de Dieu après. Mais il s'agit bien de la naissance du Seigneur Jésus sur un mode complètement différent. Vous voyez, deuxième question à se poser, sur quel mode l'auteur s'exprime-t-il ? Il faut tenir compte du contexte littéraire. Et certains contextes littéraires sont plus propices que d'autres à l'emploi d'expressions idiomatiques. C'est comme ça qu'on les appelle, ces expressions. Je vais vous expliquer un moment ce que ça veut dire. Il s'agit d'expressions dont le sens est figuré. D'accord ? On parle souvent du sens littéral d'un mot et du sens figuré, ou le sens littéral d'une expression et le sens figuré d'une expression. Et la difficulté survient quand on arrive à ce type d'expression et qu'on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, ces expressions. Bon, je parlais il y a quelques instants enfin, je vous mentionnais des expressions françaises, hein, les gones, on va mettre la pâtée au Stéphanois, il va tomber des cordes, on va se réveiller dans une purée de pois. Alors, pour celui qui ne comprend pas, pour une personne étrangère, pour Timothée par exemple, qui ne connaît pas toutes les expressions idiomatiques du français, ça lui semblait super bizarre. Demain, tu vas te réveiller dans une purée de pois. Chic, alors. Il va tomber des cordes. Ouh, bah bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Comment est-ce qu'on peut savoir ce que veulent dire les expressions idiomatiques dans une langue? En s'accoutumant à la langue, n'est-ce pas? Parfois, c'est la seule façon de comprendre. On ne peut pas l'expliquer, et beaucoup de ces expressions, on a du mal à les trouver dans des dictionnaires même. Elles sont dans l'usage. Elles sont dans l'usage. Donc, la troisième question qu'on doit se poser quand on a ce genre de texte sous les yeux dans la Bible, c'est quelles expressions sont propres à Israël? Il faut s'accoutumer au langage idiomatique de la Bible. Alors, si je vous disais en français, hein, je vous assure, j'étais carrément parti en Sky et je me suis fait passer un sapin par un bignolon qui m'a chouré toute mon oseille. Vous avez compris ce que je veux dire ou...
Ouais.
Ah, Denis, oui. Alors, c'est pour ceux qui ne sont pas accoutumés comme Denis à ce genre de langage, bah, c'est compliqué de comprendre. Bon, c'est de l'argot, j'ai pris des expressions que j'ai trouvées dans un dictionnaire de l'argot, mais bon. Mais, donc ça c'est de l'argot, mais dans le langage même plus courant et plus soutenu, on a d'autres expressions, j'en ai mentionné quelques-unes, mais en voici d'autres. Être dans de beaux draps. Avoir les dents longues. Retourner le couteau dans la plaie. Marcher sur des œufs. Coûter les yeux de la tête. Répéter 36 fois la même chose. Alors celle-là je l'aime en particulier parce qu'on va y revenir. Sur la valeur symbolique des nombres. Répéter 36 fois la même chose. Je ne vais quand même pas répéter 36 fois la même chose. Non, mais 35, ça ira, s'il te plaît. Non, mais c'est pas ça que ça veut dire. On est d'accord, ça veut dire répéter plein de fois la même chose. Et la plupart d'entre nous, si on est accoutumé à la langue française, on est capable de déchiffrer, de comprendre ce que ça veut dire, ces expressions-là. Ce sont des expressions idiomatiques qui ont un sens figuré. Pas un sens littéral. Je vous donne quelques exemples bibliques d'expressions idiomatiques. Alors, je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cet exposé. Alors, en fait, pour trouver ces exemples, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai feuilleté l'Ancien Testament. J'ai feuilleté l'Ancien Testament. J'ai ouvert au pif comme ça, à droite, à gauche, notamment chez les prophètes, parce que c'est là qu'on trouve sans doute le plus de prédictions dans la Bible. Et j'ai juste relevé des expressions qui, en fait, nous, on ne les emploie pas normalement, mais la Bible les emploie de façon plus ou moins récurrente. Se couvrir la moustache. Oui, se couvrir la moustache. Ça veut dire qu'on a honte, en fait. La lune se changera en sang. Vous avez déjà vu ça dans la Bible. Tourner sa face vers quelqu'un ou cacher sa face à quelqu'un. Ça a une signification, hein, un sens figuré. Étendre sa main contre quelqu'un. Ou à l'inverse, faire reposer sa main sur quelqu'un ou sur un endroit. Donc quand il s'agit de Dieu qui étend sa main contre quelqu'un, c'est parce qu'il va le châtier. Ou s'il fait reposer sa main sur quelqu'un ou sur un endroit, c'est pour le bénir. La douleur d'une femme qui accouche. Ça ne veut pas toujours dire qu'il y a une femme qui accouche. Les quatre coins de la terre. Ça ne veut pas dire que la terre a quatre coins. Le feu qui dévore. C'est pas toujours un feu qui dévore. Le feu qui dévore. C'est le châtiment de Dieu, bien souvent. Et puis, bien sûr, les nombres. Alors, les nombres qui ont une valeur, bien souvent, non pas littérale, mais un sens figuré. Alors, le nombre 1000 veut souvent dire tout simplement une grande quantité, une très grande quantité. À l'inverse, le nombre 5 veut dire une toute petite quantité. Le nombre 12 se réfère à une sorte de plénitude humaine, le nombre complet, comment dire, la valeur complète, mais d'un point de vue humain, tandis que le nombre 7, c'est la même chose, mais pour Dieu, la plénitude de Dieu, et ainsi de suite. Alors imaginons que la Bible soit un petit peu comme une carte, un petit peu comme un plan. Quand on fait ce travail qui consiste à s'accoutumer, c'est un travail difficile, mais qui consiste à s'accoutumer au langage idiomatique de la Bible, c'est un peu comme si on faisait le travail qui consistait à dresser la légende de la carte. Vous avez déjà vu une carte, la carte d'une région, notamment les cartes IGN quand on va en montagne, il y a plein de symboles sur la carte. Et imaginez que vous n'avez pas de légende pour savoir ce qu'ils veulent dire ces symboles. Eh bien, vous allez faire tout un travail, tout un effort d'analyse pour essayer de vous accoutumer. Vous allez peut-être comparer ce que vous voyez sur la carte à ce que vous voyez en réalité pour dire, ah tiens, ce symbole, ça veut dire ça. Et petit à petit, vous allez compléter la légende. Et vous n'allez peut-être pas réussir à la compléter entièrement. Il y a peut-être encore des symboles qui vont paraître un peu obscurs. Mais c'est un travail difficile. Et avec la Bible, c'est un peu la même chose. On la lit et on la relit et on la relit encore. Et à force, on commence à s'accoutumer à certaines expressions qui sont des expressions idiomatiques. Et petit à petit, on peut commencer à dresser une sorte de légende pour pouvoir comprendre. Alors, quand le prophète dit qu'un jour vous allez vous couvrir la moustache, ça ne veut pas dire qu'un jour tout le monde portera une moustache et mettra la main devant. Ça veut dire qu'un jour, ces gens-là auront honte de quelque chose. Et quand le texte dit qu'un jour Dieu va tourner sa face vers quelqu'un, ou à l'inverse, va cacher sa face à quelqu'un, il est question de Dieu qui est propice ou défavorable à quelqu'un. La douleur d'une femme qui accouche, c'est peut-être cette sensation imminente d'un événement spectaculaire. Et ainsi de suite. C'est difficile, parce que nous, on n'est pas des Hébreux, on ne maîtrise pas l'hébreu, on n'a pas la culture hébraïque, la culture d'Israël, la culture de la Bible, et c'est un travail difficile. Alors, je veux tout de suite ajouter une petite parenthèse pour dire qu'en réalité, il ne faut pas qu'on s'imagine qu'on va réussir à un moment donné à maîtriser le langage idiomatique de la Bible. J'ai lu ceci dans un article intitulé « Les expressions idiomatiques ». Et ce n'est pas du tout un article qui parle d'interpréter la Bible. C'est un article d'une revue littéraire sur tout simplement la littérature française. Mais j'ai trouvé ce paragraphe intéressant. L'auteur dit ceci. En fait, le lien qui existe entre le sens propre et le sens figuré ne manque pas de nous renvoyer à la notion de motivation sémantique. Ce que l'auteur veut dire par motivation sémantique, c'est-à-dire l'intention avec laquelle l'expression est employée. Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre en employant cette expression? D'accord? À ce niveau donc, il convient de prendre en compte certaines considérations. La motivation sémantique, c'est-à-dire, pour faire simple, l'interprétation du sens figuré de cette expression, n'est perceptible A que pour qui connaît le sens propre d'un mot d'où sont dérivés des sens figurés. Donc si je dis qu'on est on sera dans de beaux draps, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un drap, déjà vous êtes mal barré pour comprendre l'expression en question. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc déjà, il faut comprendre le sens littéral des mots qui sont employés dans l'expression. Donc ça, c'est la première réserve. Et ça, je trouve ça pertinent pour la Bible, parce que, en fait, bien souvent, dans certaines expressions, notamment en hébreu, il y a des mots dont on est, même encore aujourd'hui, on n'est pas trop sûr du sens littéral. Hein, vous avez déjà remarqué, dans votre Bible, des fois, il y a des petites notes qui disent « ça peut vouloir dire ça aussi ». Voilà. Ou alors mots inconnus, ou mots très rares, ou des fois même il y a des petits fragments qui manquent. Ouais, ça arrive. Alors, vous voyez, alors déjà, il faut faire attention. On ne doit pas imaginer qu'on peut maîtriser l'emploi des expressions idiomatiques. Premièrement, donc, la motivation sémantique n'est perceptible que pour qui connaît le sens propre d'un mot d'où sont dérivés ses sens figurés. B, ce qui n'implique pas que ce rapport soit toujours sensible dans l'usage. C'est-à-dire, ce n'est pas des règles absolues. C, ni qu'il reste pertinent, alors c'est un petit peu technique, ni qu'il reste pertinent en synchronie, c'est-à-dire que le sens sera toujours le même, indépendamment du contexte. Donc, autrement dit, c'est comme si on disait, on sera dans de beaux draps, ça ne veut pas forcément toujours dire qu'on sera dans une situation un peu compliquée. Des fois, ça pourrait vouloir dire autre chose. D'accord? Donc, vous voyez, tout ça pour dire, il faut faire attention. Et dernièrement, ça ne veut pas dire non plus que la connaissance du sens propre soit condition suffisante pour la compréhension et la motivation du sens figuré. L'auteur peut employer une expression idiomatique dans un autre but que le but habituel, quoi. Alors voilà, juste pour dire, il faut être prudent. D'accord? Ça se trouve, se couvrir la moustache, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Des fois, ça peut peut-être vouloir dire juste se couvrir la moustache. Alors, qui parle à qui et quand? Sur quel mode l'auteur s'exprime-t-il? Quelles expressions sont propres à Israël? Quatrièmement, que sait-on pour sûr du plan de Dieu? Que sait-on pour sûr du plan de Dieu? Il faut inscrire la prédiction qu'on a sous les yeux dans l'ensemble de l'histoire. Et ça, c'est un principe très très important pour toute interprétation pour l'interprétation de tout passage biblique. C'est le principe qui s'appelle le principe de l'analogie de la foi, d'après lequel les passages moins clairs sont à interpréter à la lumière des passages plus clairs. D'accord? Principe très important. Quand on écoute quelqu'un parler dans une langue étrangère, d'accord? Une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Disons que je parle à Nadine en allemand, ou plutôt qu'elle me parle en allemand. Et elle sait que j'ai étudié l'allemand, mais que en même temps je maîtrise pas l'allemand comme elle. Et elle veut vraiment me communiquer un message. Elle va insister sans doute dans son discours sur les parties essentielles de ce qu'elle veut me communiquer. Elle va les répéter, les articuler, peut-être parler plus fort, etc., etc. Moi, de mon côté, qui essaye de déchiffrer ce que Nadine est en train de me dire, Je vais comprendre ces éléments-là sur lesquels elle a insisté, et le reste de son discours, je vais l'interpréter à l'intérieur des limites de cette espèce de garde-fou que constitue ce que j'ai vraiment compris. Vous suivez? Donc elle va insister, parce qu'elle est bonne pédagogue, sur les éléments vraiment importants qui vont me permettre de déchiffrer le reste, qui vont me permettre de structurer le reste. Alors, s'il y a quelques éléments que je ne comprends pas, au moins, grâce à ce que j'ai compris, je ne vais pas imaginer des choses complètement à l'ouest, quoi. Vous voyez? Et vous savez, c'est intéressant parce que moi, je me rappelle très bien d'avoir fait cette expérience. Quand j'étais jeune, j'ai maîtrisé le français plus que l'anglais, bien que ma mère soit anglophone. Et j'ai commencé un jour à lire de la littérature en anglais. C'était plus difficile que de lire de la littérature en français. Et vous avez peut-être fait cette expérience, vous qui parlez peut-être une langue étrangère. Quand vous commencez à lire de la littérature dans une langue que vous ne maîtrisez pas complètement, ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous lisez, même s'il y a parfois des éléments que vous ne comprenez pas, du vocabulaire que vous n'avez jamais vu auparavant. Mais vous en savez assez pour pouvoir comprendre ce qui se passe quand même dans le texte que vous lisez. Et vous pouvez lire des romans, et je me souviens, j'étais jeune, je lisais des romans que je trouvais passionnants, j'adorais lire ces romans. Pourtant, de temps en temps, il y avait du vocabulaire ou des expressions ou même des phrases entières que je ne comprenais pas. Mais ça ne m'empêchait pas de saisir le message. Et au moins, si je ne savais pas ce que ces phrases ou ces mots voulaient dire, je savais ce qu'ils ne voulaient pas dire. Ça ne pouvait pas être en contradiction avec ce que je comprenais. Et ce principe, on l'applique à la Bible quand on la lit, quand on l'interprète. Les passages les plus clairs nous aident à interpréter les passages les moins clairs. La théologie biblique, c'est donc une théologie qui s'informe de l'ensemble de la Bible, permet d'avoir un cadre général qui informe notre interprétation des passages plus difficiles ou plus obscurs. Je vais reprendre l'image de la carte. Si la Bible est une sorte de carte, une sorte de plan qu'on est en train d'étudier, alors la théologie biblique nous permet de comprendre ce que représente la carte et où, et ça c'est peut-être le plus important, où on se situe sur la carte. Quand vous regardez un plan, vous allez au centre commercial, vous regardez un plan du centre commercial, il y a toujours ce logo en plein milieu, enfin quelque part, qui dit « vous êtes ici ». Ça c'est un élément très très important pour pouvoir interpréter ensuite le reste de la carte. La théologie biblique nous aide à faire cela. Elle nous aide à comprendre ce que la carte est censée représenter. Et quand on étudie la théologie biblique, on a un cadre global qui nous permet de voir l'histoire avec les yeux de Dieu. Et ce n'est pas prétentieux de le dire, hein, puisque la Bible, c'est la révélation de Dieu. Il veut qu'on puisse faire sens de la réalité dans laquelle on existe. Ça nous permet donc de savoir que le monde a eu un commencement, que Dieu est le créateur de tout ce qui existe, que l'homme est déchu, qu'il a péché, que Dieu a promis la venue d'un rédempteur, la venue d'une semence, d'un Messie, qui est bienvenu d'ailleurs en la personne de Jésus, qui a accompli son œuvre conformément au plan de Dieu. Il est mort d'une mort expiatoire, il est ressuscité en vainqueur, il est monté au ciel à la droite de Dieu, il a déversé son esprit sur les croyants. Et là, on a le petit logo « Vous êtes d'ici ». Vous êtes d'ici, entre le moment où Jésus est venu et qu'il a accompli tout ça, qu'il est monté au ciel, qu'il a déversé son esprit sur les croyants, et le moment où il va revenir, mettre un terme à l'histoire et inaugurer de façon définitive et complète son règne éternel. Et on est entre les deux. Et ce cadre général, on l'a parce qu'on a une théologie biblique. Et cette théologie biblique, elle a toutes sortes de branches que l'on peut ensuite ajouter. On peut rajouter l'alliance de Dieu avec son peuple au Sinaï par Moïse. On peut ajouter ensuite la période de la monarchie en Israël avec les rois qui se sont succédés. Et puis l'histoire qui s'est gâtée, Israël qui a chuté, qui est tombé dans la rébellion et l'idolâtrie, le châtiment d'Israël, l'exil à Babylone. Et donc tout ça nous donne un cadre. Et il faut pouvoir replacer ce qu'on lit dans le texte biblique dans ce cadre pour pouvoir bien le comprendre. On a besoin de comprendre donc ce que représente la carte et où on se situe dans sur cette carte. On a besoin de comprendre de quoi parle la Bible et où on se situe par rapport à la plupart des prédictions bibliques. Et c'est ce que je disais en introduction, quand un texte parle au futur, il parle peut-être au futur de quelque chose qui est au passé pour nous. Comment le savoir? Eh bien, le fait d'avoir une bonne théologie biblique, une théologie biblique la plus complète possible, nous aide à situer ces différents événements. D'accord ? Enfin, cinquième question à se poser. La Bible interprète-t-elle déjà ce type de prédiction ? Alors, vous avez une prédiction sous les yeux, vous lisez votre texte biblique. Ah, prédiction. Cinquième question à se poser. La Bible interprète-t-elle déjà ce type de prédiction? Il faut tenir compte, donc, d'interprétations inspirées qui font jurisprudence. Alors, parce que, vous savez, certaines prédictions de la Bible sont déjà interprétées par la Bible elle-même. Par des auteurs qui sont venus après et qui étaient inspirés du Saint-Esprit. Donc là, on peut se fier à leur interprétation, non? Enfin, je pense. Hein. Et puis, parfois, par leurs interprétations, ces auteurs bibliques créent des précédents qui autorisent une certaine manière d'interpréter à notre tour. L'exemple le plus évident, encore une fois, ce sont peut-être les prédictions qui parlent de la venue du Messie, qui est présenté tantôt comme le rejeton de David, la descendance promise, la semence. et qui sont appliquées explicitement par le Nouveau Testament à la naissance de Jésus. D'accord? Le descendant de David qui doit venir prendre place sur le trône, un trône éternel, etc., etc. Alors, on a des. J'ai bientôt fini, je vous rassure. Ce point, c'était le dernier, mais il est délicat. Parce que dans la Bible, on a des exemples qui nous aident, et puis on a des exemples qui ne nous aident pas. Alors, des exemples qui nous aident. Amos 9, versets 11 et 12. En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, oracle de l'Éternel qui accomplit tout cela. Bon, ben, le Nouveau Testament interprète ce passage dans Actes 15, verset 14 et suivant, à l'occasion de la controverse à Jérusalem sur la question de la circoncision. Est-ce que les païens convertis, il faut les forcer à se circoncire maintenant? Donc, oui. Donc, c'est l'apôtre Jacques qui prend la parole et qui dit Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Alors il interprète le texte. Et on voit dans le contexte que pour l'apôtre Jacques, le fait de relever la tente de cabine, de la tente de David ou la cabane chancelante de David, le fait de relever cette tente ou cette cabane, il le rapproche de la résurrection du Seigneur Jésus et de son ascension au ciel, son exaltation. Le fait que Jésus a pris place sur le trône du royaume de Dieu, au ciel, à la droite de Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et par conséquent, il dit, lorsque le prophète Amos en parlait, il a dit qu'ensuite le reste des hommes chercherait Dieu. Et donc l'apôtre Jacques est en train de dire, vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus, il est ressuscité, il a pris place sur son trône, et maintenant les portes du royaume sont ouvertes à tous. Ne créons donc pas de difficultés aux païens qui se convertissent et qui veulent intégrer le royaume de Dieu. D'accord? Exemple qui aide. Parce qu'en fait, on a beaucoup de prédictions dans l'Ancien Testament qui parlent du rétablissement de la royauté, qui parlent du rétablissement d'Israël, et ainsi de suite. Donc ça nous aide. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire un transfert automatique, mais ça nous aide. Et on a d'autres exemples comme ça dans l'évangile de Matthieu, où il est tout le temps en train de se référer à des prophéties, à des prédictions de l'Ancien Testament. On a des exemples comme cela dans l'Épître aux Hébreux, également, qui citent très très souvent les textes de l'Ancien Testament, et qui les interprètent pour nous, autour de la personne et de l'œuvre de Jésus. On a aussi beaucoup d'exemples dans la prédication des apôtres dans le livre des Actes, notamment quand cette prédication est dirigée vers des Juifs, où ils citent en permanence l'Ancien Testament pour convaincre leur auditoire juif que ces choses se sont accomplies dans la personne et la venue, dans la personne et l'œuvre de Jésus. Exemple qui aide donc, mais il y a des exemples qui n'aident pas. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand les apôtres, enfin les disciples attendaient la venue de l'Esprit à Jérusalem et l'apôtre Pierre, il a une idée. Il se dit, tiens, on n'est plus que 11 alors qu'on était 12, parce que Judas, qui a trahi Jésus, il s'est suicidé. Il se dit, ben, il faut le remplacer. Et alors, il va justifier sa démarche en citant deux versets tirés de deux psaumes différents. D'accord? Alors, mais alors, quand, enfin, on va pas lire les textes, on n'a pas le temps, mais je vous encourage à le faire. Quand on lit ces textes dans les psaumes, dans leur contexte, mais on se dit, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Où est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait pour citer ces petits bouts de versets et dire à cause de ça, il faut qu'on trouve un remplaçant pour Judas parmi nous les apôtres. Ça, c'est un exemple qui n'aide pas. Alors, moi, j'ai ma petite opinion à ce sujet, donc, enfin bref. Mais il y a un autre exemple, c'est dans Éphésiens 4, versets 7 à 10. où Paul il dit ceci, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, c'est pourquoi il est dit, et là il cite dans l'Ancien Testament, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, il ajoute, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc là, il est en train d'interpréter le texte biblique. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Mais dans le contexte, psaume 68, verset 19. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le lieu saint. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour, il nous prend en charge, ce Dieu-là est notre salut. Bon, je sais pas, mais moi j'étudie ce psaume et j'ai du mal à voir le rapport avec les dons spirituels que Dieu fait aux croyants dans son église, quoi. Enfin, j'ai franchement du mal. Mais l'apôtre Paul, lui, il a pas du mal. Alors ça, c'est le genre d'exemple qui aide pas. Enfin, moi personnellement, qui m'aide pas. Alors tout ça pour dire que c'est quand même compliqué, vous voyez. Et je vais conclure un petit peu là-dessus, hein. L'interprétation des prédictions, c'est difficile. Oui, il faut croire littéralement tout ce que la Bible nous enseigne, mais tout ce que la Bible nous enseigne, elle ne nous l'enseigne pas littéralement. Alors on doit se méfier à la fois de l'interprétation simpliste, qui refuse de voir tout sens figuré dans la Bible, et ce qui est absolument intenable, enfin, je veux dire. J'espère que je vous ai donné assez d'exemples pour voir que c'est intenable. Un jour, tu te couvriras la moustache. Bon, sans se figurer, évidemment. Et se méfier en même temps de l'interprétation compliquée qui refuse de voir tout sens que j'ai qualifié de subversif dans la Bible, c'est-à-dire un sens qui se rapporte au miracle, au surnaturel, ou bien encore un sens qui se rapporte au jugement. Et des fois, on ne veut pas voir dans la Bible ce genre de choses parce que c'est trop subversif. Et donc on a recours à des interprétations farfelues, super compliquées, qui nous permettent d'éviter ce que la Bible veut vraiment nous enseigner. Se méfier donc dans les deux cas. Le meilleur remède à tout cela, finalement, honnêtement, c'est la théologie biblique. Cette idée d'un cadre général, le fait d'étudier la Bible dans son ensemble, qui nous aide donc, grâce à ce qui est clair, à comprendre et à interpréter ce qui est moins clair. On étudie la Bible comme on étudie un manuel dans une discipline donnée. Je ne sais pas, vous avez étudié la médecine, la physique, je ne sais pas, d'autres choses, la logistique et d'autres choses encore. Dans ces manuels, il y a des règles, des formules, des principes essentiels, fondamentaux, clairs, qui en fait servent à encadrer le reste. À côté de ça, il y a les détails, les subtilités, les points secondaires, les cas particuliers, les points parallèles, peut-être plus difficiles à comprendre et à intégrer. Mais dans tous les cas, ces points-là, ces points secondaires, s'inscrivent dans le cadre général qui, lui, est incontestable. Il y a donc un danger à faire de la théologie à l'envers, en commençant par les détails pour ensuite développer un cadre. Je pense qu'il vaut mieux faire de la théologie à l'endroit, commençant par le cadre. Et ce cadre, on l'obtient uniquement par une théologie biblique qui est informée par les différentes parties de la Bible, par tout ce qui est clair. On commence par là et ensuite on va au détail. Mais moi, je crois qu'il y a certaines, je le dis prudemment et humblement, mais il y a certaines branches, certaines sensibilités, on va dire, théologiques qui existent dans le monde évangélique où c'est de la théologie à l'envers, en fait. On part des détails. Et on élabore ensuite, à partir de ces détails, toute une structure, mais qui devient complètement abracadabrante à la fin.